Vous êtes sur Reporter, le quotidien de l'écologie. Vous écoutez les grands entretiens.
Claire Nouvian, les océans sont immenses. Ils recouvrent 70% de la superficie du globe. Sont-ils en danger ?
Ah oui, ah oui, absolument. Oui. Ils sont en danger, mais en fait, on est en danger, nous, l'humanité, puisque c'est 71%, 70-71%, donc les trois quarts quasiment de la planète en surface. Mais ça ne comprend pas le volume de l'eau que représente l'océan. Et par rapport à toute l'eau qui est présente sur Terre, on estime qu'il y a 97,5-98% de l'eau qui est dans l'océan. Et donc, on imagine bien qu'autant d'eau sur une planète, ça détermine tout, en fait. Et ça, on ne l'a pas bien en tête. Ça détermine la stabilité du climat, la redistribution de la chaleur, la bonne humidité de notre planète, le bon niveau de température, que ce soit même la radiation solaire, la chaleur va être redistribuée grâce aux courants marins. Aujourd'hui, l'océan absorbe jusqu'à un tiers de nos émissions de CO2. Et par rapport à ce qu'on a fait avec l'augmentation de la température sur Terre déjà depuis l'ère pré-industrielle, et là, rien que dans les 50 dernières années, on se rend compte que l'océan a absorbé 93% de nos excédents de chaleur. Donc les excédents de chaleur, c'est vraiment ce qu'on a produit de chaleur en plus de la radiation solaire naturelle. Et avoir absorbé autant de chaleur, ça a évidemment des conséquences. L'océan s'est réchauffé. Et quand l'océan se réchauffe, les eaux de surface augmentent donc en température. Et ça a des conséquences absolument majeures. Donc on peut estimer que les tempêtes de neige en Angleterre au printemps 2024, c'est lié à la perturbation très profonde des courants marins.
Alors si on parcourt par exemple le mot-clé océan sur Reporter, parce qu'on suit ça attentivement, on va parler de réchauffement, d'effondrement du courant marin atlantique, on va parler d'acidification des océans, on va parler de perte de la biodiversité, par exemple l'effondrement des populations de requins ou de raies, parmi des centaines d'autres, de surpêche, de microplastiques qui forment le sixième continent, d'extraction minière dans les abysses. Enfin, c'est une énumération effrayante.
Effrayante, ouais.
Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, finalement, puisque ça, on le sait, vous dites, c'est depuis 50 ans que les choses changent, pourquoi, apparemment, ça continue avec une telle inconscience ?
C'est vraiment une question. J'aimerais bien avoir une réponse magique à tout ça, mais j'imagine que, finalement, il faut aller puiser dans les évidences qui nous viennent. L'évidence, c'est que déjà, ce qui se passe dans l'océan, on ne le voit pas. On tourne le dos à la mer, comme disait Tabarly, c'est vraiment ce qu'on a dans le dos quand on est à la plage, l'océan. Et clairement, on y prête vraiment peu d'attention. On n'arrive pas à se rendre compte qu'en permanence, on fait passer des chalutiers sous-marins, c'est-à-dire des immenses filets de pêche qui se comportent comme des bulldozers. Et c'est de la déforestation constante. Donc déjà sur Terre, ça nous choque, la déforestation, mais il faut se rendre compte que le passage, par exemple, des chalutiers, ces bateaux de pêche qui tirent ces filets lestés, hein, qui sont prévus pour aller racler les fonds, c'est 150 fois en superficie ce qu'on déforeste sur Terre chaque année.
Ah ouais ?
Oui, et il y a une quantification d'ailleurs très intéressante qui a été faite, hein, sur l'activité des bateaux de pêche au niveau mondial, et on se rend compte que l'impact spatial, hein, c'est-à-dire la superficie qui est impactée par les bateaux de pêche au niveau mondial, c'est 4 fois celle de l'agriculture. Mais la pêche ne représente même pas 10% des protéines animales qu'on tire qui composent notre alimentation. Donc en fait, si en plus on mettait ça de façon proportionnée à la consommation de protéines, alors là, vraiment, l'impact serait encore plus fort. Donc je pense que c'est ça, c'est invisible. C'est aussi tellement grand qu'on a du mal à imaginer que nous, les humains, on ait réussi à transformer quelque chose d'aussi vaste.
C'est ça, c'est l'idée qu'on avait. C'était énorme parce qu'on a tous entendu le chiffre que j'ai donné au début à l'école, des quantités d'eau immenses. Effectivement, moi le premier, j'allais dire, mais c'est tellement grand, ça peut tout absorber. C'était notre sécurité presque.
Oui, puis c'est vrai que historiquement, quand on regarde ce qu'on a tiré de la mer, les volumes, mais tellement spectaculaires de poissons, la biomasse de poissons, mais ça a généré des récits d'ailleurs vraiment très intéressants dans les temps modernes. Et ça a constitué le capitalisme moderne, en fait. Une extraction de biomasse avec un tel volume de poissons qui sortaient, le hareng, etc., de la mer du Nord. Les Pays-Bas ont en gros inventé le taylorisme, hein, parce qu'il fallait ce volume de poissons. À partir du moment où on a développé des filets un peu plus efficaces, 16e, 17e siècle, ça a constitué la fortune des Pays-Bas. Ça a constitué aussi cette spécialisation des tâches sur le traitement d'autant de poissons. Donc, on a inventé.
C'est-à-dire qu'il y avait déjà des procédés quasiment industriels de traitement.
C'est tout à fait les ancêtres de l'industrialisation des tâches et de la mécanisation, un petit peu aussi, d'avoir des humains qui vont remplacer au début les machines, mais qui vont l'un prendre que les lots, l'autre mettre sur une chaîne, débiter la tête, débiter la queue, récupérer, etc. Donc ce volume était tellement impressionnant à partir du moment où on a commencé à sortir des volumes de choses vivantes de l'océan qu'on s'est dit c'est impossible qu'on en vienne à bout. Et d'une certaine façon, je pense que ça continue à un peu forger nos mentalités. Donc on commence simplement, je pense, on commence, hein, mais tout simplement, depuis quelques années, avec des documentaires comme Seaspiracy.
Comme
Seaspiracy, c'est un documentaire qui a été fait par Netflix, qui a été un énorme succès mondial. Et je pense qu'il y a eu des films comme ça, le travail des ONG, qui a permis au fur et à mesure, je dirais depuis même pas une dizaine d'années, de commencer à conscientiser que l'océan est vidable et il est vidé.
Est-ce que ça ne s'est pas joué, puisque vous évoquez l'histoire du capitalisme et de la pêche pré-industrielle aux Pays-Bas, est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose de similaire avec la pêche à la baleine, qui a quand même été extrêmement importante au XIXe siècle, où en bonne partie la graisse énorme des cachalots et des grandes baleines a contribué à l'industrialisation? Et en fait, on s'est rendu compte quand même au mi-temps des années 1950-1960 qu'on était en train de conduire ces espèces à la disparition. Est-ce que là, il n'y a pas commencé à se passer quelque chose?
Oui, alors la différence, c'est que les baleines, la façon dont on les a chassées, ont justement, cette façon de chasser les baleines qui a profité de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on les a chassées de tout temps de façon artisanale. Mais au 19e siècle, c'est là que la chasse à la baleine explose, parce que les dérivés, évidemment, de la graisse des cachalots, notamment, mais de toutes les baleines, en fait, la couche graisseuse. Et le cachalot a aussi du spermacétie, c'est-à-dire une huile qui, elle, est un peu odorante, contrairement à la graisse de baleine qui est inodorante. Et cette graisse, comme le spermacétique, qui ont servi à différentes choses dans les industries, la graisse a vraiment, oui, permis d'éclairer les rues de Paris, de faire du lubrifiant pour les industries. Donc, l'explosion de la chasse à la baleine au 19e siècle a été évidemment accélérée, aggravée par l'évolution technologique, comme dans toutes les pêches au 20e siècle, jusqu'à ce qu'on arrive, en effet, à quasiment extinction des populations de baleines, où on arrive à... On est arrivé à des réductions de biomasse, donc des populations on estime au-delà de 95-98% parfois. Donc les grandes baleines ont vraiment frôlé l'extinction. Et aujourd'hui, le drame, c'est que, en effet, on a eu un moratoire international en 1986. On a dit vraiment on arrête la pêche commerciale à la baleine. Il était trop tardif. Parce que, évidemment, les populations ont commencé à se reconstituer. Doucement, mais sûrement, peut-être 2-3% de population par an, ou plus. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, ce qui se produit, c'est que l'augmentation de température des eaux dont on a parlé en introduction, ça génère des canicules marines dont on n'arrive pas du tout à comprendre l'ampleur. Ce sont des incendies sous-marins qui génèrent une mortalité de masse dans les océans.
Des incendies sous-marins.
Des incendies. Et les animaux, littéralement,
chaud.
Ils cuisent. Ils cuisent sur place. D'accord. Tous les animaux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas se déplacer suffisamment vite parce qu'ils ne sont pas d'assez grande taille ou que ce n'est pas dans leur comportement, ils cuisent littéralement sur place.
Et, quels animaux, par exemple?
Tous les bivalves, les huîtres, les moules, ce qui va former en fait tous les écosystèmes, par exemple, le long de nos littoraux. On a des bancs entiers, parce que c'est comme des forêts sous-marines, hein, sous l'eau. C'est des forêts, en fait, constituées par les animaux. Et ça crée des paysages, comme des villes, en fait. C'est des écosystèmes vraiment complexes. Et tous les bivalves, par exemple, sont morts il y a quelques années le long de la côte ouest américaine et canadienne. Et ça a généré, en fait, une telle mortalité qu'il y a vraiment eu même un problème d'odeur, en fait. Parce que ça a été, on estime, plus de 1 milliard d'animaux marins qui sont morts. Donc c'est fou, en fait. Et les chercheurs disent... On n'a pas du tout le recul nécessaire pour même être capable de comprendre et de quantifier ce qui est en train de se passer sous l'eau. Ça va trop vite. Et tout va trop vite. Enfin, on le voit bien avec l'augmentation des températures globales, de toute façon.
Qui s'est passé à l'été, enfin, depuis un an, 2023-2024, et qui saisit effectivement les océanographes et les climatologues.
Oui, en fait, il y avait un article d'ailleurs qui disait que les chercheurs ont dû vérifier plusieurs fois leur courbe, en fait, tellement ils n'en revenaient pas, en fait, de l'augmentation des relevés de température. Évidemment, parce que là, on a déjà atteint en 2023 ce qu'on était supposé atteindre à la fin du siècle. Donc, tout va très, très mal, très, très vite. Et ce qui est fou, c'est de se rendre compte que donc ces incendies sous-marins, ces mortalités de masse qui ont lieu dans l'eau et dont on n'a pas du tout encore saisi l'ampleur et les conséquences, on voit, en train de générer l'extinction des baleines. Et là, en fait, le chercheur Olivier Adam, qui est professeur-chercheur à Sorbonne-CNRS, dit que lui, il ne voit pas de raison que les cétacés, donc tout le groupe des baleines et des dauphins, marsouins, etc., mammifères marins, il ne voit pas comment les baleines pourraient ne pas s'éteindre d'ici 40 ou 50 ans.
Tant de silence, parce que ce que vous me dites m'impressionne et me rend triste. Quelque chose qui est dingue. J'ai oublié de dire que vous étiez porte-parole, représentant de l'ONG Bloom, qui fait un super travail sur les océans, sur la pêche. En janvier, vous avez publié un rapport expliquant que la pêche industrielle est peu performante à la fois sur les plans environnemental, social et économique, et qu'elle reçoit pourtant énormément d'aide publique. Il y a en plus quelque chose de fou, c'est que en 1880, ils gagnaient de l'argent en tuant les baleines, c'était mal, mais là, non seulement on détruit la biodiversité marine, mais en plus on la subventionne. Nos impôts, les impôts, servent à financer la mort de l'océan.
Absolument.
Comment est-ce possible ?
C'est possible parce que on maintient ces activités avec une artificialité qui s'appelle les subventions publiques. C'est la seule raison.
Pourquoi donne-t-il des subventions publiques, le gouvernement français et européen ?
Et pourquoi ? Parce que là, il y a une autre raison majeure, c'est que le secteur industriel est organisé par les industriels pour les industriels de la grande distribution. C'est eux qui bénéficient des prix artificiellement bas. C'est pas nous. Nous, on paye le poisson plusieurs fois.
On le paye par les impôts et les subventions.
Et on le paye à l'étal.
Et on le paye à l'étal. Et c'est, je ne sais, Intermarché ou Leclerc ou Auchan qui vont prendre une marge, qui formeront des bénéfices extrêmement importants et parfois nourrissant l'évasion fiscale parce que le siège social sera dans d'autres lieux, pays.
Les flottes de pêche, en effet, il y a ce sujet qui est quand même central de l'évasion fiscale ou de l'optimisation vraiment agressive et du dumping social, hein, parce qu'ils vont après repavillonner leurs navires de pêche gigantesques, comme les navires de bateaux, enfin les navires qui vont cibler le thon tropical en Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou dans l'océan Indien. Et au fur et à mesure, on a vu vraiment une tendance très nette au repavillonnement, c'est-à-dire que les bateaux européens, français, espagnols, c'est vraiment nous qui dominons la pêche thonnière, hein, en Afrique, les Français et les Espagnols, et on a pavillonné de plus en plus souvent aux Seychelles. Et aujourd'hui, la moitié de la flotte européenne, donc capitalisée par des Européens, est en fait pavillonnée aux Seychelles dans un paradis fiscal. Donc oui, c'est un énorme sujet, en fait, de voir que les systèmes alimentaires, nos systèmes alimentaires, qu'ils soient agricoles ou halieutiques, sont organisés au bénéfice de la grande distribution, alors que c'est nous qui payons le prix direct et indirect par la destruction de nos paysages, de la santé des écosystèmes, aussi de la santé des agriculteurs. D'ailleurs, leur santé économique est liée à leur santé physique, parce que quand on doit travailler comme un chien, comme les éleveurs de vaches qui font du lait, enfin, on écoute leur vie, mais moi, ça me donne envie de pleurer. On se dit, en fait, ce système absurde est vraiment destructeur autant de l'écologie que de l'humain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas poser ces questions-là sans remettre en cause le capitalisme.
Alors là, je vais faire le capitaliste. Ah, il était temps que ça arrive.
Ça arrive tout de suite.
Madame Nouvian, je représente ici les grandes entreprises capitalistes de la pêche, françaises ou européennes. Si nous ne faisons pas ça, c'est les Chinois et les Russes qui le feront.
Alors, ils disent toujours ça, et c'est notre argument préféré, parce qu'on peut leur rétorquer qu'en Afrique, par exemple, la pêche industrielle qui a ravagé historiquement les côtes d'Afrique, les pêcheries vivrières, que ce soit du Sénégal jusqu'en Mauritanie, au Maroc, après on passe du côté Madagascar, l'île Maurice, les Maldives, le Kenya, etc., sont des flottes européennes. Les Chinois viennent d'arriver dans le game, j'ai envie de dire. Alors, les Russes, les Chinois, etc., ils ont une réelle responsabilité au niveau du désastre mondial. Même les flottes taïwanaises font des pêches avec des palangres, c'est-à-dire des hameçons qui vont attraper les requins. C'est un massacre absolu. Donc, il ne s'agit pas de les dédouaner. Mais il ne s'agit pas non plus de ne pas balayer devant sa porte et prendre nos propres responsabilités, parce que ce qu'on fait est honteux. Et c'est nous qui portons le poids du colonialisme dans l'histoire. Donc non, on balaye d'abord devant sa porte.
Est-ce que cette pêche que vous venez de décrire, cette surpêche, cette pêche destructrice, colonialiste, affecte, appauvrit les peuples des côtes africaines ou d'ailleurs d'Amérique latine ou voilà?
Alors c'est vraiment très très directement corrélé. Et je pense que de tout, moi il y a vraiment ce massacre du vivant qui me meurtrit intérieurement, très profondément. Moi je suis comme vous quand j'entends ce qui se passe avec les baleines, j'assume que ça me rend très triste. Enfin vraiment, j'ai eu un moment, j'ai perdu un petit coup de morale, quoi, j'avoue. Hein, j'ai une petite baisse quand même, je suis humaine, je ne suis pas qu'une guerrière. Et ouais, par moments c'est un peu dur. Il y a ça. Et puis, il y a ce qu'on fait aux humains. Parce que c'est les mêmes systèmes toxiques, brutaux, d'une immense brutalité. Et quand je vois que nos systèmes, aussi malveillants, en fait, assument ce cynisme absolu jusqu'au bout, de se dire, on va prendre de l'argent public, des Européens, on va construire des machines de guerre, des bateaux de 80 mètres, 90 mètres, 100 mètres, 145 mètres. Et ces bateaux ne peuvent pas se contenter de ce qu'on peut leur donner en termes de quotas. Il n'y a pas assez de poissons en Europe. Donc, de facto, ils sont obligés d'aller remplir leur cale en se comportant, il y a eu un papier qui les appelait des bandits mobiles, en se comportant comme des bandits mobiles, comme des bandits de grand chemin, dans la représentation comme ça qu'on a du Moyen-Âge, quoi. Mais comme des bandits de grand chemin. Et donc, ils vont ravager l'ensemble des eaux mondiales. Et les eaux mondiales, c'est pas en plein milieu de l'océan que les eaux sont productives. Là, on a très peu de production primaire. Et donc, il y a très peu de population. Donc, on a quelques bancs de poissons, qu'on appelle les poissons migrateurs, comme les thons, qui vont traverser l'océan. Donc, en effet, on peut empêcher certains en plein milieu de l'océan, mais globalement, aller au milieu de l'océan, dépenser tout ce gasoil pour attraper des thons, alors que, de toute façon, ils vont revenir à la côte, comme tous les poissons, la plupart des écosystèmes très productifs, c'est des écosystèmes qui sont le long des littoraux. Donc, plus c'est côtier, plus il y a de vie, c'est là qu'il y a les nurseries, la reproduction, etc. Et donc, on envoie des monstres surcapitalisés avec cette artificialité centrale des subventions publiques, entrer en concurrence directe avec des pêches vivrières, des gens qui dépendent de ça pour leur survie, du Sud, alors que leurs pêches à eux, évidemment, ne sont pas subventionnées. Et ça, c'est vraiment là où vraiment, quand on dit toujours les combats écologiques rejoignent la justice sociale, mais oui, c'est pas une espèce d'élément de langage comme si on était en campagne politique. Enfin, je veux dire, c'est la réalité. C'est que si on veut trouver des solutions pérennes, des solutions où on gagne sur tous les tableaux, avec la plupart qui gagnent, sauf quelques acteurs industriels, mais les politiques publiques devraient toujours être faites pour l'intérêt général, pour l'intérêt du maximum d'entre nous, et pas pour l'intérêt, pour préserver les quelques intérêts financiers de quelques acteurs qui sont des grands consortiums industriels avec des pratiques démocratiques et en effet fiscales qui sont absolument détestables. Et donc, je pense que, et je veux le dire parce que le summum du cynisme, on l'a découvert il y a quelques temps, il y a quelque chose qui se passe qu'il faut qu'on déconstruise. Les gens pensent, avec le changement climatique, qu'un acte qu'ils peuvent faire, c'est arrêter de manger de la viande rouge, ce qui est très bien, et que souvent, ils se disent « donc je vais manger du poisson ». Et en général, quand on se met à consommer du poisson, on se retrouve à manger du saumon d'élevage. Et en fait, on ne se rend pas du tout compte qu'en déportant finalement notre consommation de viande rouge vers toujours de la protéine animale, plutôt que de réduire globalement la consommation de protéines animales, il ne faut pas qu'il y ait un report. Parce qu'on se retrouve à manger du poisson d'élevage. Le saumon d'élevage, il est nourri, comme tous les poissons d'élevage, il est nourri avec des protéines animales, c'est-à-dire des poissons sauvages. Donc on prend des poissons sauvages le long des côtes africaines. On va chercher des petits poissons qu'on appelle des poissons bleus, des merlans bleus, chinchards, des poissons qui sont chez nous très peu valorisés. Chez eux, c'est vraiment le socle de leur alimentation et d'une économie littorale artisanale. On prend ces poissons-là avec des bateaux gigantesques qu'on appelle des chalutiers pélagiques, donc des énormes filets dans lesquels on peut littéralement faire rentrer plusieurs avions. on racle tout ça, donc on détruit les écosystèmes marins, parce que évidemment, toute la chaîne alimentaire de l'océan dépend de ces poissons. On appelle les poissons fourrage aussi. C'est, en anglais, on dit des staple food. C'est vraiment des, comme des agrafes dans les écosystèmes. On a besoin d'eux. Eh bien, ces poissons-là, on les transforme en farine. On les donne à manger aux poissons d'élevage du Nord, parce que nous, on veut manger du poisson d'élevage. Et les pêcheurs qui font ça, les Néerlandais, donc qui font de l'évasion fiscale à gogo, ils osent parler de pêche philanthropique.
Ah ouais?
Ouais. Ils ont même fait un film où ils disent « Nous faisons de la pêche philanthropique ». Donc ils envoient leur monstrueux bateau, ils récupèrent le poisson des pêches africaines. Globalement, ils en font de la farine animale pour nourrir des poissons d'élevage. Et une toute petite partie de ces poissons-là, ils les mettent en boîte et ils les vendent en Afrique. Ils osent dire, après avoir détruit tous les pêcheurs artisans d'Afrique, ils osent dire que c'est la pêche philanthropique. Et là, je me suis dit, mais je ne peux même pas imaginer que quelqu'un ait pu penser à ce terme-là. Enfin, pour moi, c'est le symbole le plus frappant du cynisme du capitalisme moderne.
Est-ce que vous mangez du poisson ?
Très, très peu. J'ai sorti une boîte de sardines il y a 3 semaines, elle est encore dans ma... Je me suis dit, il faut vraiment que je mange mes sardines, parce que ça fait quand même des années que je désardine. Très, très peu. Globalement, je ne mange pas beaucoup de protéines animales, de toute façon. Je ne suis pas passée entièrement végétarienne, parce que je n'ai pas de passion pour les lentilles, malheureusement. Donc ça. J'aimerais bien... Je n'aime pas trop les pois chiches, je n'aime pas trop les lentilles. Donc moi, je suis un peu foutue sur le régime végé. Ouais. Mais par contre, j'adore tous les autres légumes. Donc comme j'ai une passion pour les légumes, je mange surtout végétarien. Et très peu de protéines animales. Et encore moins de poissons. En fait, chaque poisson, il a un coût qui est trop lourd, je trouve. Parce que, encore, un poulet d'élevage, je me dis, j'ai des copains qui ont quelques poulets. De temps en temps, ils font le sacrifice d'un poulet. Enfin, je me dis, c'est encore une échelle que j'assumerais, moi, à échelle individuelle. Si j'habitais à la campagne, j'aurais quelques poulets. Mais dans l'océan, il y a toujours un... À moins vraiment qu'on choisisse des pêches très sélectives, comme la pêche à la ligne, où on va sortir un poisson après l'autre. Mais sinon, il y a toujours du vivant qui est associé. Et j'ai du mal à me dire que quand je mange un poisson, il y a un dauphin qui est mort avec, il y a une raie qui a été découpée vivante, il y a des requins sur lesquels on a marché tellement il y en avait sur le pont du bateau. Les observateurs qui embarquent, les observateurs scientifiques, qui sont supposés rendre compte de ce qui se passe une fois de temps en temps, parce que c'est pas du tout une couverture scientifique 100% des voyages de pêche, mais de temps en temps, ils embarquent sur des bateaux industriels. Et les observateurs scientifiques disent que, par exemple, la pêche au thon en Afrique, c'est une boucherie. C'est leur mot, une boucherie. Et en fait, j'ai pas trop envie de participer à ça. Ouais, globalement, pas à ça. J'ai pas envie de tuer des vaches, j'ai pas envie de tuer des poissons.
Alors, le capitaliste est revenu dans le studio. Il va vous poser une question. Écoutez, madame Claire Nouvian, nous sommes conscients quand même du changement climatique et de tout ce qui se passe, donc on va sortir des fossiles, on va faire des voitures électriques et toutes sortes de choses grâce aux énergies nouvelles, mais on a besoin de certains matériaux et certains minéraux que l'on va aller chercher au fond des océans. Donc, c'est vertueux quand même, vous êtes d'accord avec ça, si on fait très attention quand on ira chercher des matériaux au fond des océans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Non, évidemment que non. Et en plus, c'est toujours pareil, c'est que les arguments des industriels, ils reposent sur un mensonge, toujours sur un mensonge. Ils sont obligés d'essayer de se justifier en faisant appel, évidemment, à une nécessité d'aller consommer, une nécessité d'avoir tous une voiture. On n'a pas tous besoin d'avoir une voiture électrique, je suis désolée, on peut très bien mutualiser les transports, on peut très bien vivre autrement. Et donc, d'une part, on ne fera pas l'économie de la sobriété, de repenser entièrement nos modèles de consommation, de repenser nos modèles à la lumière d'une équité nord-sud. Enfin, il serait temps. Et puis en plus, de repenser vraiment le recyclage. Et ce qui a été prouvé avec l'extraction de minerais en profondeur, c'est que, en fait, on recycle très très peu, moins de 5 ou 10%, je crois, de tous les métaux qui sont en circulation. En fait, on commence évidemment par tomber dans, enfin, l'économie circulaire pour ne pas accepter mentalement, éthiquement, d'aller extraire de nouveaux matériaux, quels qu'ils soient. En fait, sortir de l'extractivisme absolument et à tout prix. Et accepter qu'on peut très bien vivre en consommant moins d'énergie. En fait, on vit très bien en consommant moins d'énergie.
Donc, en fait, vous êtes opposé à toute extraction de minéraux dans les océans.
Ouais, alors, pas que. Je suis anti-extractiviste tout court.
Sur Terre.
Ouais. Je pense que c'est pas une façon d'habiter la planète, de devoir la détruire pour se payer un confort superflu. Et je pense profondément qu'on a, de façon très, très artificielle, construit un monde tourné sur les désirs des uns, très individualistes, alors qu'il faudrait qu'on passe à une société construite sur les besoins.
On va avoir du mal. Là, dans le studio, il y a deux micros, il y a du plastique, un peu de métal, une bonnette qui est une sorte de dérivé du plastique. On prend des photos et nos auditrices et auditeurs regardent leur téléphone ou écoutent avec leur téléphone qui lui-même est constitué de tout ça. Comment on fait ?
Ben, on n'est pas obligé de changer de micro toutes les 14 secondes, on n'est pas obligé de changer d'iPhone, on n'est pas obligé d'avoir une nouvelle caméra, machin truc, de produire des images, de prendre 350 millions de fois la même photo de nous-mêmes, aller les stocker sur des serveurs. Je veux dire, on vivait très bien sans tout ça. Moi, j'ai aucun problème avec une forme de sobriété totale. Enfin, je pense même que, enfin, en tout cas, c'est perso. Et ça, je veux pas, c'est à la société de décider. Mais moi, je vivais vachement mieux quand tout ça était plus lent. J'aimais bien la lenteur.
Pour quelqu'un qui vit quand même très vite et qui travaille de longues journées.
Ouais, là, je travaille tout le temps. Mais ça, c'est pas... J'ai toujours travaillé beaucoup, en fait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me nourrir. Donc, même quand j'étais au lycée, je travaillais tard, et je travaillais mes cours de maths, mais j'apprenais mes leçons, je lisais, je faisais des choses. J'ai besoin cérébralement d'avoir de la nourriture, mais je trouve que oui, il y a une... Enfin, je sais pas, je me dis tout ça... Qui avait fait le... Mundi, non, le Hartmut, comment il s'appelle, Hartmut Rosa, qui avait fait l'éloge de la lenteur, mais je ne sais plus comment s'appelle son livre. Mais en fait, oui, l'éloge de la lenteur, bien sûr. On a besoin, au fond, je crois qu'on a besoin de ça. Mais on peut très bien vivre dans le speed et dans la course, hein. On sait s'accommoder de ça. Et je trouve ça agréable, j'aime bien. Hein, j'aime bien quand ça va vite, les choses vont vite. Mais je trouve que on est encombré de choses non nécessaires. En tout cas, je me suis jamais sentie en phase avec mon époque, mais plus elle avance et moins je me sens en phase, c'est clair.
Reporter, le quotidien de l'écologie.
Alors Claire Nouvian, qui sont les puissants finalement, tous ceux dont on a parlé, dont on vient de parler sur les océans, sur c'est qui en fait ?
Les puissants, c'est la grande distribution et leurs alliés industriels. Donc les producteurs industriels qui travaillent pour la grande distribution et pour les chaînes de transformation industrielle.
Et comment on peut changer ça ?
On peut changer ça en se constituant en contrepoids de lobbying. Je vois vraiment pas plus efficace, parce que bien sûr, changer sa consommation, ça envoie des signaux qui sont bien entendus hein, par la grande distribution. Il ne faut pas du tout renoncer à changer notre consommation. D'abord, c'est plus agréable d'un point de vue de l'alignement éthique avec nous-mêmes de vivre en cohérence, plutôt que de vivre en incohérence et dans la culpabilité. Donc c'est bien de faire des choses qui correspondent à nos croyances et à nos principes éthiques. Mais au fond... l'écologie que vous avez critiquée, je pense beaucoup chez Reporter, et merci pour ça, du col roulé, on coupe le wifi dans le jet, etc. Bon, ça a fait beaucoup de blagues, mais c'est vrai que non, j'y crois pas trop. L'écologie individuelle, vu la gravité et l'ampleur de la catastrophe, on va pas y arriver là. Il nous faut vraiment des politiques publiques à très forte échelle. Et donc, pour les obtenir, il n'y a pas 36 solutions. Soit on est dans les institutions actuelles et on fait contrepoids en termes de lobbying citoyen. Soit on conquiert l'appareil d'État. Ça, je laisse le soin à d'autres de le faire. Ce ne sera pas pour moi. Et donc, moi, je me sens plus à l'aise dans l'organisation d'un contrepoids citoyen.
Alors, parce que vous avez effectivement, vous êtes brûlé les mains, si j'ose dire, dans la politique. En 2018, vous avez participé à un mouvement qui s'appelait Place Publique. On ne va pas détailler ce qui s'est passé, mais pourquoi avez-vous été, pas abîmé, mais si meurtri par la politique ?
Alors, mais j'ai pas été meurtrie. C'est juste que j'avais pas envie d'y rester. En fait, je me suis rendu compte que j'avais, de ma vie entière, d'ailleurs, c'était mon conjoint qui m'avait dit, je t'ai jamais vue aussi malheureuse. Et en fait, c'est vrai, c'est l'épisode le plus malheureux de ma vie. Et je me suis rendu compte que ça marche pas avec mes besoins à moi, mes besoins profonds, hein, personnels, là, purement personnels. Moi, j'ai besoin d'alignement, j'ai besoin de sincérité, j'ai besoin de rire, j'ai besoin d'aventure intellectuelle, j'ai besoin d'être nourrie, j'ai besoin de lire des choses, d'entendre des choses intelligentes, d'écouter des chercheurs, des journalistes, investiguer, comprendre, chercher à comprendre. Et en fait, en politique, c'est pas ça. On passe sa journée avec des gens qu'on aurait préféré ne jamais croiser. Alors, il y a des gens super aussi hein, qui essayent de tenir, et merci à eux, des militants, des personnalités politiques, hein, qui, heureusement qu'on les a, des alliés politiques dans les institutions. Et je les remercie de faire ça. Je pense qu'ils sont câblés pour ça. Ils y arrivent, en tout cas, ils arrivent à survivre là-dedans. Moi, ça ne correspond pas à mes besoins vraiment profond, éthique, personnel, d'équilibrage. Je ne peux pas me ressourcer dans un milieu où il y a trop de gens, il y a trop de gens que je trouve sombres, calculateurs, vraiment des faux culs, quoi. Désolée, j'ai pas mieux que des faux culs, mais comme c'est pas permis, des arrivistes, des calculateurs, des gens qui... Et je trouve que les coups, ils sont durs quand ils viennent de l'intérieur. Parce que moi, me faire taper dessus toute la journée par des capitalistes véreux, au contraire, ça me renforce, quoi. Je me dis, bon, je suis au bon endroit. Mais quand on est supposé faire attelage commun, d'aller ensemble dans la même direction, c'est pas rien de conquérir un appareil d'État, par exemple. Enfin, je veux dire, l'affaire est sérieuse. Enfin, et moi, le niveau de responsabilité que j'ai en moi, que je porte en moi, il est tellement fort par rapport à ce qu'on en fait. Il n'y a pas d'alignement possible avec ces petits arrivistes, là. Enfin, ça, c'est vraiment lamentable. Mais donc, c'est pas non plus pour éclipser le travail formidable fait par certains. Hein. C'est pour ça qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de partir, on a besoin de gens qui fassent le boulot. Donc, merci à eux quand ils arrivent à survivre dans ce marasme. Et la seconde chose, pour moi, qui marchait pas, c'est que il y a pas du tout d'espace pour réfléchir. Et ça, pour moi, c'est une forme de mort, en fait. J'ai l'impression de mourir. C'est ma mort à moi. Moi, sans livre, d'abord, j'aurais pas survécu. Et ne plus avoir le temps de lire, ne plus avoir le temps d'avoir des conversations intéressantes, et que tout mon temps, mes journées, mon énergie soit passée à essayer de conquérir ou de se battre contre, mais à l'intérieur du mouvement ou contre un autre mouvement, sans avoir le temps de produire de l'intelligence, vraiment de travailler sur le fond. Et donc, je pense que si je devais me réengager en politique, ce serait dans l'ombre pour simplement travailler sur les programmes. Ça m'intéresserait finalement. Mais c'est ça, j'ai une image trop haute et trop noble de la mission publique qu'est la politique, de s'intéresser à tout le monde, s'assurer qu'on crée de la générosité, de la solidarité. Et je me dis, le dénominateur commun, c'est la mère seule qui a un enfant handicapé. C'est ça mon dénominateur pour la France. Ou une infirmière qui a une vie de chien en hôpital psychiatrique ou dans l'hôpital public et qui tient l'humain avec ses petites mains et son gros cœur, quoi. Et je me dis, non. C'est ça ce qu'on devrait faire. Et c'est ça qui m'intéresserait. C'est de dire comment on peut faire en sorte qu'on équilibre le budget, les politiques publiques pour qu'on se mette globalement à l'abri des besoins, créer une société de solidarité, créer de la générosité. Il y a tellement de choses à faire. Ça me paraît tellement évident ce qu'il y a à faire en plus que c'est ça qui m'intéresse. Et pas être là en train de se bouffer le nez pour des postes, des places. Le truc le plus déprimant que j'ai eu à faire de ma vie entière, c'est de négocier une liste de candidats et l'ordre des gens sur la liste. J'avais jamais vu. Et moi, je me dis, les gens, ils disent tout le temps, si tu veux savoir qui tu as en face de toi, pars en bateau, va vivre une tempête en mer et tu sauras. Alors, c'est vrai, j'ai vécu ça aussi. Et même les meilleurs marins, ils se mettent à vomir. Franchement, on est seul à la barre, c'est un peu chaud. Hein. Mais c'est pas être en mer ensemble, c'est un espace réduit. Etc. Vraiment, si on veut voir la nature profonde des humains, on leur dit, tu peux être élu. Mais au lieu, on va faire, je sais pas, 10%, et au lieu d'être en place 10, et donc être élu, tu vas être en place 13. Et là, on voit l'état dans lequel les gens se mettent. Et là, on sait qui on a en face de soi. Je peux vous dire, c'est le révélateur absolu, quoi. Alors, il n'y a pas beaucoup de monde qui reste indemne hein, à l'exercice. Et je me suis dit, si c'est ça l'humanité, en fait, je préfère même pas voir, en fait. Et c'était une drôle de posture d'être engagé dans un mouvement sans vouloir être élu. Et même de parler à des journalistes politiques, j'ai aussi découvert les journalistes politiques. Ça a été une énorme déception, hein, je le dis tout de suite. Ah, parce que les journalistes politiques, c'est une drôle de caste. C'est pas du tout comme les autres journalistes. Et j'ai vachement réfléchi à ça. Je me suis dit, mais pourquoi ils sont comme ça? Parce qu'en fait, ils écrivent tout le temps des trucs dégueulasses. et ils lisent les cartes. Ils vont se dire, mais je viens de te dire quelque chose, tu peux croire ce que je viens de te dire. Eh bien non, ils vont lire des intentions, là où on n'a pas mis d'intention. Et donc, ils vous prêtent des intentions pas possibles. Et donc, ils n'ont pas cru, par exemple, que je soutenais un mouvement parce que je croyais qu'il fallait un mouvement, tout simplement. Non, non, ils pensent que j'ai un calcul, qu'en fait, je vais être adjointe de la maire de Paris. Alors, donc, on le répète, personne ne vous entend. Donc, on écrit que des sornettes, en fait. Et ensuite, quand les élections arrivent à Paris et que je ne suis pas sur la liste de Anne Hidalgo, on dit, ah, en fait, non. Et donc, il faut toujours, rétrospectivement, ils se disent, en fait, ils ne croient pas du tout à la sincérité. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on est obligé en politique d'avoir affaire à cet espace d'insincérité absolue avec tout le monde ? Et c'est peut-être parce que la plupart des politiques sont insincères que les journalistes politiques sont obligés de faire de la cartomancie, en fait, d'essayer de lire à travers leur posture parce qu'ils partent du principe que la parole n'est pas sincère. Donc c'est que de l'insincérité, en fait, partout. La politique, je trouve que c'est trop insincère. Donc bref, c'est pas pour moi.
Alors quand même, la situation est grave, y compris sur le plan politique. J'ai relu pour préparer cet entretien les entretiens que vous aviez déjà accordés à Reporters dès 2013 et en 2019. Et depuis, par exemple, l'interview de 2019, on pourrait la lire aujourd'hui sans date. Elle dit ce qui se passe, sauf que tout s'est encore déjà aggravé par rapport à ça, notamment la montée du fascisme, la montée du Rassemblement national, la radicalisation du capitaliste et qui en fait est en train de faire une alliance avec le Front National, tout plutôt que des partis promouvant la justice sociale et l'écologie. Malgré tout ce que vous venez de décrire, de la cruauté, de la vilainie, du fonctionnement de la vie politique aujourd'hui, comment on fait politique? Puisque quand même, vous nous avez dit au début, là, qu'il y avait le travail citoyen, de lobbying, d'action citoyenne, militante, mais il y avait aussi besoin de la politique, d'investir le pouvoir d'État. Donc comment on fait dans cette situation face à la montée de cette alliance entre le capitalisme et le fascisme ?
Déjà, il faut aller voter. Il faut aller voter. Et faire le deuil du fait que les politiques soient des individus parfaits. Ils ne le sont pas. Ils ont des défauts. Mais on n'est pas supposé vivre avec eux. On est supposé simplement leur donner un mandat pour qu'ils fassent le job pour nous. Donc faisons ça. Et c'est pour ça que je ne supporte pas. Mon vrai sujet, c'est les abstentionnistes. Alors ça, vraiment les gens avec lesquels je me fight, c'est les abstentionnistes. Je ne supporte plus les abstentionnistes, en fait. Et désolé, hein, les abstentionnistes, je sais que vous avez plein de bonnes raisons, mais c'est inaudible pour moi. Parce que moi, au Parlement européen, littéralement, je dois aller me ramper devant des députés pour qu'ils ouvrent leurs portes, pour qu'ils puissent même écouter. Et en fait, si on avait quelques députés de plus sur l'espace de gauche écologique. Et alors, on a le choix, je veux dire, il y a trois partis, il y a trois grandes formations au Parlement européen, je veux dire que ce soit les écolos, la gauche socialiste-démocrate ou The Left, c'est-à-dire le groupe de la gauche radicale. On a trois groupes, je veux dire, ça va, on a le choix. Je ne veux pas entendre que les gens me disent « Ah, tous pourris ». Non, 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 attendez. À la fin des fins, il y a quand même des gens qui votent pour la justice sociale et la stabilisation du climat et la lutte contre l'effondrement des espèces. Et il y a ceux qui font des stratégies toxiques pour tuer l'environnement, pour continuer à accroître les profits de certains. Donc, je veux dire, non, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On ne peut pas faire du relativisme à tout crin. C'est impossible et inaudible. Donc on fait le deuil de ça, on fait le deuil de la personne parfaite, on s'en fout, c'est pas le sujet, on regarde ce qu'ils ont voté. C'est pour ça qu'on a fait une évaluation avec Bloom. Nous on aime bien, on est vraiment une association scientifique, on a que des geeks, des docteurs en sciences et des ingénieurs. Vraiment, clairement, on a un tout petit biais, on aime la donnée, on aime le factuel. Et on a évalué 150 amendements votés au cours des 5 dernières années au Parlement européen par l'ensemble des 705 députés, répartis sur 27 nationalités et 8 groupes politiques. Donc c'est une usine à gaz, parce que vous pouvez consulter, vous pouvez regarder la configuration qui vous intéresse. Si vous voulez savoir ce qu'a voté la délégation danoise écolo, vous saurez, ou la délégation, ou je sais pas quoi, ou le groupe polonais ECR. Enfin, vous voyez, il y a toutes les configurations. Donc ça a été une usine à gaz, ça fait un an et demi qu'on bosse là-dessus. Les données sont hyper factuelles, claires, nettes. Aller voter permet d'aller gagner pour la solidarité dans la société et pour la lutte contre l'effondrement du monde naturel. Et donc de nous, hein, parce que c'est nous, hein, c'est de nous qu'il s'agit à ce stade. Hein. Le mal est fait pour la planète, hein, j'ai envie de dire. Donc maintenant, il s'agit un peu de penser même égoïstement à notre propre survie. Donc voilà comment on fait. Et ensuite, on soutient ça. Et puis, si on aime le militantisme, on s'approche des partis politiques. Et si on n'aime pas, ben, on fait que voter pour eux. Mais à côté de ça, en tant que citoyen, on peut s'engager dans des assauts. Tous nos combats, mais 100% hein, de nos combats, 100% de nos combats, on les a gagnés parce que des gens nous soutiennent, partagent, interpellent, écrivent, râlent. 100% de nos combats. Nous, on fait vraiment, on fait tout le travail en amont. On est sérieux, on est une asso scientifique, donc on fait le travail de données, d'évaluation, de mise en récit. On va jusqu'à l'action judiciaire. On établit les normes qu'on devrait avoir. On écrit des amendements. On les propose aux politiques. On fait tout ça, mais on ne gagne que lorsque le sujet a commencé à avoir de l'écho dans l'espace public. Et ça, on le fait qu'avec deux formes de soutien, les médias et les citoyens. Donc les médias qui nous donnent quand même pas mal de micros, on ne va pas se plaindre, mais qui n'ont jamais tout à fait la bande passante que moi j'estime nécessaire pour quelque chose d'aussi vital et central que l'océan. Et on peut au moins avoir les réseaux sociaux sur lesquels on peut faire exister les problématiques centrales à notre survie et à la survie de la planète.
Pourquoi la gauche et les écologistes, vous avez cité trois tendances, on va dire, sont aussi divisées et n'arrivent pas face au péril de toute nature qui devrait nous pousser à l'exigence de surmonter les difficultés. Voilà, le drame écologique, la dégradation sociale, la violence des dominants. Pourquoi est-ce que les écologistes et les gauches n'arrivent pas vraiment à s'unir?
Alors, je sais même pas si c'est souhaitable dans une configuration pérenne. Le fait qu'elles votent ensemble ces formations politiques au Parlement ou à l'Assemblée sur des votes écologiques, disons, je reprends. Le fait que ces formations politiques votent ensemble au Parlement européen ou à l'Assemblée sur des enjeux écologiques ou sociaux, ça me suffit, moi. Parce que quand on regarde les trois grandes couleurs que sont les écolos, ELV, les socialistes, Place publique socialiste, ou la France insoumise, ils ont des différences fondamentales en fait sur l'approche de la géopolitique, par exemple. Et on va dire que un peu traditionnellement l'écologie au Parlement européen, dans le groupe des Greens, les Verts européens, ça dépolitise pas mal le sujet de l'écologie. Les socialistes, ils ont eu du retard, mais ils s'y sont mis. Ils n'ont pas la culture technique, donc ce n'est pas nos alliés techniques, ça peut être des alliés politiques. La France insoumise a aussi récupéré un peu tardivement le retard sur l'écologie, mais s'y est vraiment mise. Mais ces trois formations, entre la dépolitisation des enjeux globaux de société, une vision atlantiste, pour être hyper caricaturaux, une vision anti-atlantiste, pour être vraiment, pour les caricaturer aussi, pour être caricaturaux aussi là-dessus, si on voulait être un peu caricaturaux, on serait vraiment sur des choix de société, une vision de là où on doit se placer par rapport à la Russie de Poutine, par exemple, qui sont vraiment des visions qui ne sont pas très réconciliables. Et ça ne me dérange pas, en fait. Ce qui me dérangerait, ce serait plutôt de faire croire aux citoyens qu'ils peuvent s'entendre sur des sujets comme la posture à adopter par rapport à l'Ukraine, la Russie, etc. Alors qu'en fait, je pense que c'est plutôt assez irréconciliable.
Alors après, deux choses. D'une part, vous parlez quand même, c'est vos termes, de investir l'appareil d'État. Donc là, il y a quand même un enjeu, en particulier dans le système constitutionnel français où il y a cette figure délirante du président de la République. Et puis par ailleurs, cette division géopolitique, elle renvoie aussi à une situation où il y a de plus en plus de violence géopolitique. Et la violence géopolitique, elle est... Et puis vous avez cité l'Ukraine, on pourrait parler de la Palestine et de ce qui s'y passe. Et puis voilà, elle est aussi le symptôme, l'effet du désordre du monde et des conflits de plus en plus grands qui s'y produisent sur le plan écologique, sur le plan donc des ressources, sur le plan de la justice sociale. Et voilà, donc c'est ennuyeux qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur cette analyse géopolitique, parce que la géopolitique, elle n'est pas indépendante des évolutions qu'on a citées auparavant.
Bien entendu. Mais je pense aussi que le fait qu'il y ait des désaccords, c'est très bien que les désaccords existent. Je pense qu'à quand je pense que les politiques ont quand même la possibilité de se reconfigurer en fonction des échéances électorales. Mais une élection européenne, par exemple, ne dicte pas du tout les mêmes stratégies pour un parti qu'une élection, que les élections législatives, ou que les élections municipales, ou que les élections régionales, ou que les élections, évidemment, que l'élection présidentielle. Et donc, en arrivant vers la présidentielle, on verra bien ce qui se passera. Tout peut encore être imaginé. Mais sur l'espace européen, il est évident que je ne crois pas que ce soit possible pour eux de s'entendre, alors qu'il y a des désaccords si profonds une prime à exister tout seul. Les partis, quels qu'ils soient, ont la possibilité d'avoir des représentants identifiés seuls dans l'espace européen. Alors que quand on est sur, par exemple, les législatives, il y avait vraiment une intelligence à faire la NUPES à ce moment-là pour pouvoir représenter une force au sein de l'Assemblée. Au Parlement européen, ils ont la possibilité d'exister seuls, ils ont la possibilité d'y envoyer des députés et ensuite ils referont des alliances sur des thématiques. Enfin, donc je ne pense pas que ce soit... ne pas s'entendre sur l'ensemble des sujets ne veut pas du tout dire que les gens se font la guerre, qu'ils se détestent, qu'ils ne peuvent pas travailler ensemble, en fait ils travaillent. Mais ils ont des désaccords. Et ces désaccords peuvent coexister dans un espace européen sur une échéance électorale européenne. Et à partir du moment où il y aura une échéance qui va être présidentielle, tout peut encore se reconfigurer. D'ailleurs, souvent, les enjeux sur l'élection européenne, personne n'en est totalement dupe, c'est que clairement, il y a une prime à exister qui va un peu configurer l'espace de conquête de ce que pourrait être la présidentielle. Donc, il y a un besoin d'exister seul, à la rigueur, vous voyez. Donc, il se joue tous ces enjeux. Alors, moi, je ne suis pas vraiment dans leur discussion, parce que, comme je vous disais, moi, ce n'est pas ce qui me passionne.
Mais vous comprenez leur logique.
Je comprends leur logique maintenant. Ouais, j'ai un peu trempé dans leur truc et je vois un peu comment ça fonctionne. Après, ce n'est pas très fin comme analyse, ce que je vous dis. Il y a des gens qui seront bien plus intéressants que moi pour vous parler de tout ça.
On l'entend comme, on va dire, un message d'espoir, c'est-à-dire que passer ces européennes en juin 2024, ils vont se remettre ensemble, espérons-le.
Oui, mais en fait, surtout, ils le feront sur des bases qui seront les bonnes. C'est-à-dire qu'ils auront clarifié leur position. Raphaël Glucksmann, il a clarifié sa position sur l'Ukraine, la Russie, etc. La France insoumise aussi. Et donc, c'est pas du tout, pour l'instant, des visions qui sont réconciliables. Mais ils se parlent, ils se respectent. Enfin, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, à partir de là, on va avoir une offre idéologique qui sera claire. Et cet espace électoral permet cette clarification. Et ça permet aussi de dire après... on a des différences, des vraies différences, ou même des différends, et comment on va les surmonter si on devait s'allier. Mais c'est la politique, en fait. En politique, on n'a pas d'ennemis très durables.
Cette alliance n'est pas quand même indispensable, compte tenu du contexte, une fois de plus je ne sais pas comment appeler ça autrement que la montée du fascisme. Un fascisme, évidemment, moderne, 21e siècle, dans cette alliance avec le néolibéralisme numérique, techno-solutionniste et les forces d'extrême droite.
Pour moi, dans l'échéance électorale européenne, non. Parce que de toute façon,
je
ils
parle
vont aller.
D'après, en fait.
Après, oui, ça c'est sûr. Alors là, moi je serais vraiment absolument en faveur qu'on n'ait pas cet éclatement des partis de gauche en vue de la présidentielle. Sinon, on va perdre et c'est la catastrophe. Mais dans l'espace européen, ils vont aller siéger dans des groupes différents, de toute façon. Donc, ça ne me pose absolument aucun problème qu'on aille voter selon nos convictions et selon nos affinités, finalement, géopolitiques plus qu'écologiques, quoi.
Reporter.
Le quotidien d'écologie.
Alors, Claire Nouvian, vous êtes qu'ancienne Pacato, qu'ancienne d'Emmanuel Kant, Emmanuel Kant, qui était à la fin du XVIIIe siècle, c'est un des grands philosophes des Lumières, et à 17 ans, vous aviez lu Fondement de la métaphysique des mœurs, un livre qui vous a marqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être kantienne?
Ça veut dire que on a comme impératif catégorique d'avoir un rapport à la vérité et à la justice. Et donc, c'est en une phrase, vivre en ne faisant aux autres que ce qu'on accepte qu'on nous fasse à nous. Et en fait, je trouve que c'est tellement universel, c'est tellement vrai en toutes circonstances que si on se l'appliquait vraiment et qu'on l'appliquait au monde, on n'aurait aucun problème sur Terre. Il n'y aurait plus une personne à la rue. Il n'y aurait pas une cité avec des gamins talentueux dont l'avenir est bouché. Il n'y aurait pas ça. Terminé. parce qu'on n'aurait pas envie d'y vivre.
Alors, redites-nous la phrase qui est la solution à tous les problèmes sur Terre. Il faut qu'on la retienne.
Il vient de ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse à nous-mêmes. C'est tout. Et c'est la base, parce que même si Kant, de son point de vue de philosophe moraliste, n'avait pas en tête toutes les études qui allaient advenir sur l'empathie, c'est aujourd'hui, en science justement cognitive, c'est ce qu'on va appeler l'empathie, finalement. C'est la capacité à se dire je fais à l'autre ce que je voudrais qu'on me fasse à moi-même. Et finalement, faire preuve d'empathie, donc c'est après développer ses compétences d'un point de vue vraiment cognitif et émotionnel, c'est se dire il n'y a aucune forme de justification morale, émotionnelle, physique de ne pas toujours respecter l'autre, qu'il soit humain ou non humain, exactement comme on voudrait être respecté, nous, dans notre personne. En fait, ça, pour moi, ça commence et ça s'arrête là.
La générosité serait une forme d'égoïsme ?
Non, parce qu'en fait, ça voudrait dire que ça relève du calcul. Et c'est pour ça que les travaux après complètent pour moi Kant, les travaux sur l'empathie. Parce qu'on se rend compte que quand on est élevé avec la prise en compte d'autrui, et donc de l'altérité, hein, vraiment l'altérité, la belle altérité avec un A majuscule, on ne peut plus jamais faire comme si l'autre n'existait pas, dans aucune de nos décisions. Et ça, en fait, ça appelle une forme d'activation d'un circuit frontal, en fait, dans le cortex néofrontal du cerveau. Et c'est le grand mystère de ce qu'on a comme défi, en fait, c'est que c'est difficile quand on n'a pas activé, en gros, ces circuits d'empathie dès la plus tendre enfance, c'est difficile de les activer après. D'où le désastre des éducations capitalistes. Et je ne dis pas juste bourgeoises, parce qu'on peut être un bourgeois catholique immensément généreux, mais on peut être aussi un cynique, un cupide. Et il y a d'autres travaux de psychologues américains qui avaient évalué que, justement, la cupidité faisait, en fait, partie des attributs de la grande richesse. Et que les très riches, en fait, globalement, comme caste, hein, dans la société, les castes les plus riches élevaient leurs enfants avec cette valeur qui est donc horrible, je parle comme valeur, mais la cupidité faisait partie des attributs qui étaient acceptables, en fait. Et donc, il y avait eu un papier dans Le Monde qui s'appelait « Plus on est riche, moins on a de morale, c'est prouvé ». Je l'ai découpé, je l'ai collé sur mon frigo, il a bien jauni depuis. mais en fait, les chercheurs, justement, ont travaillé sur plein de façons d'évaluer ça, en théorie des jeux, etc. Et on arrive à ce résultat. Et c'est pour ça que élever les enfants avec générosité, donc c'est simplement leur faire prendre en compte l'altérité. Et c'est vraiment pas compliqué. Parce qu'il n'y a pas un enfant sur Terre qui a envie d'être maltraité. Il n'y a pas une personne sur Terre qui a envie de ne pas avoir d'égard, de ne pas recevoir d'amour, de ne pas recevoir de considération, de reconnaissance, de soins. Donc en fait, c'est universel. Et ça doit être central. C'est pour ça qu'on n'y arrivera dans le monde que quand on aura fait une réelle révolution de notre éthique personnelle.
Mais en passant collectivement, parce que là, on sort de 30 à 40 ans. Enfin, on sort, on est là totalement imprégné dedans, mais de 40 ou 50 ans de néolibéralisme qui est des valeurs. C'est une sorte de morale. Le néolibéralisme et le capitalisme, c'est la compétition, c'est l'individualisme, c'est battre les autres. Et on a toute notre société, on est imprégné de ces valeurs individualistes.
Absolument. C'est pour ça que l'éthique personnelle, elle doit passer par un cadrage par l'éducation. Il y a vraiment pas mal de travaux qui ont été faits maintenant là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs, les sciences de la pédagogie ont commencé vraiment à essayer de se réformer, à mettre l'accent sur la coopération dès le plus jeune âge des enfants. Parce qu'on se rend compte que si on veut créer des compétences d'empathie et de prise en compte de l'autre, donc de trouver des ressources et des solutions qui sont basées sur la coopération, en fait, ça va générer l'empathie. La coopération va générer l'empathie. Alors qu'un système scolaire, par exemple, qui est basé sur la compétence individuelle, la notation individuelle, génère de la compétition et donc de la défiance à terme dans la société. Et donc, si on crée des systèmes basés sur la coopération dans toutes nos pédagogies, ça veut dire qu'on va générer des solutions globales pour la société et plus d'altérité, plus de générosité en notre capacité individuelle.
J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la philosophie qui inspire les politiques éducatives en ce moment.
Alors, c'est tout bizarre ce qui se passe, parce que de fait, quand on regarde ce qui s'est passé en France, c'est qu'on a vraiment favorisé l'éducation privée. Et donc, on a détruit globalement le système d'éducation publique. Mais tout en mettant un petit peu, de façon très libérale, ces enseignements des sciences cognitives. Par exemple, on va mettre dans les programmes scolaires maintenant des parcours un peu de production de contenu sous forme de coopération. Et tout en ayant en fait globalement une machine qui, dans ses grandes masses, a généré un système de ségrégation sociale qui ne permet plus la mixité qui fait la richesse et le sel de la vie. Donc on a fait dans les grandes masses exactement l'inverse de ce qu'on aurait dû faire. Et par petite touche impressionniste, en fait, sans que ça fasse tableau, on a mis quelques éléments qu'on aura tirés de quelques enseignements de neurologues, en fait. C'est complètement absurde.
On a parlé de puissance destructrice tout à l'heure. Et dans un autre contexte, vous parlez de puissance aimante. Ça serait quoi des puissances aimantes ? Aimantes comme du verbe aimer ?
Ce serait la révolution de l'amour. Et je pense que c'est pour ça que, globalement, je me dis, on va passer par ce que Antonio Guterres, quand il a dit on a ouvert les portes de l'enfer, je me dis, on va passer par l'enfer. Mais se préparer aujourd'hui à ce que ça pourrait être après, c'est ça l'enjeu. C'est se dire, on ne peut pas continuer sur une séquestration du vivant, de la vie, des humains, pour une poignée d'êtres qui ont perdu en fait ce qui fait d'eux, en fait ce qu'il y a d'humanité en eux. Donc c'est les derniers individus, c'est les dernières personnes auxquelles on devrait demander ce qu'il faut faire sur Terre. Et ces personnes qui ont donc le moins d'empathie, le moins de capacité à être en relation avec les autres, sont ceux qui décident de tout aujourd'hui. Et il y a une autre étude, je ne sais pas si vous l'aviez lue, que j'avais trouvé vraiment géniale, qui montrait en fait pourquoi, par exemple, les gens riches, des classes sociales élevées, étaient globalement aussi peu empathiques et peu disposés à la sympathie même. C'est-à-dire qu'ils vont vous ignorer, leur regard va vous survoler dans un dîner parce que vous n'êtes pas assez important, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ils vont s'adresser aux gens de pouvoir, c'est que des calculs, etc. Et il disait, en fait, ces gens-là, globalement, comme caste, a tellement de moyens financiers qu'ils n'ont pas besoin des autres. Ils n'ont plus besoin d'organiser leur vie en dépendant de l'entraide, de « tu me gardes mon môme après l'école », de « je te passe un peu de couscous, j'en ai trop fait hier », etc. Et en fait... quand on a les moyens d'avoir des bonnes, des domestiques qui font toujours le ménage, qui préparent tout, qui s'occupent des enfants, etc., on n'a jamais besoin du voisin pour garder les enfants alors qu'on est en retard parce qu'on arrive d'une réunion, qu'on a fait les courses ou je ne sais quoi, ou qu'on est coincé dans un embouteillage, quoi. Et ça a coupé tous les liens qui font que l'humain est justement en coopération, qu'il fait société, qu'on interagit les uns avec les autres, qu'on dépasse nos différends, on dépasse nos différences aussi, ce qui fait de nous des individus variés, colorés, en termes culturels, pas seulement la peau. Hein. Et ça a coupé tout ça. Et en fait, je me dis, voilà, c'est ces individus-là qui sont aujourd'hui les plus déshumanisés, les plus déconnectés de la réalité. Mais c'est vous qui aviez écrit un livre, hein, sur comment les riches détruisent la planète. Enfin, vous êtes mieux placés que moi pour savoir tout ça. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas que leur mode de vie. Il y a aussi leur disposition émotionnelle et sociale. Et en fait, c'est un peu comme des sociopathes. En fait, il ne faudrait surtout pas leur confier l'organisation de la société parce que c'est les moins bien placés, c'est les moins vulnérables. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de la vulnérabilité, justement, des parents seuls, des individus qui doivent s'occuper d'un proche ou d'un voisin handicapé, de quelqu'un qui est dans... Ils ne savent rien de tout ça. Ils ont perdu contact avec le réel. Donc, il faut leur retirer le pouvoir qu'ils ont. Donc voilà, donc une société aimante, ce serait une société où la variété de ce qu'on est, nous, les citoyens, tous autant qu'on est, avec nos vulnérabilités, avec nos faiblesses, avec nos difficultés de vie, avec nos peurs, avec nos forces, on s'organise. Et donc je pense très fort que les solutions qui ont été un peu élaborées et testées, comme dans la Convention citoyenne pour le climat, Je les trouve vraiment pleines d'espoir, en fait. Ça, vraiment, la Convention citoyenne, ça m'a enthousiasmée. Je trouve que l'idée de tirer au sort, de montrer qu'avec une méthodologie, une temporalité établie, on y arrive, quoi. On arrive en gros à tomber d'accord, y compris sur des mesures qui sont coûteuses pour son petit confort individuel, en fait. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une... Je trouve que ça, c'est un endroit de lumière, en fait, cette convention citoyenne. Et tout ce qui a été fait après sur, évidemment, les modalités, en fait, de représentation, ce qu'on appelle toutes les la démocratie délibérative, quoi. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits aux États-Unis, mais pas que. Et ça, la démocratie délibérative, en fait, je trouve qu'il y a, là, dans cet espace-là, il y a des solutions institutionnelle qui pourrait fonctionner à toutes les échelles, du local au transnational, et qu'il va falloir, pour les mettre en œuvre, conquérir quand même les institutions. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est, comme on sait, quand même coincé par le pouvoir de l'argent.
Par l'amour, alors ça sera quoi la révolution de l'amour, hein?
C'est la révolution de l'empathie. C'est la révolution. Là, c'est le chercheur Sacha Baron, donc c'est pas Sacha, c'est son filleul, pardon, son neveu. Simon Baron Cohen, le chercheur en psychologie. Il a écrit un livre qui n'est pas traduit en français, ce qui est vraiment très dommage, qui s'appelle Zero Degrees of Empathy, et dans lequel il dit l'arme universelle, gratuite, mais la seule qu'on ait à disposition pour se sortir de l'enfer dans lequel on s'est mis, elle est là, elle est à disposition, elle est gratuite, mais on ne l'utilise pas, on ne l'active pas encore, mais c'est l'empathie. Et c'est vraiment cette révolution-là, cette révolution de l'empathie, qui est la révolution de l'amour. Parce que si on suit vraiment les travaux scientifiques, on se rend compte que l'empathie règle tous les problèmes de l'humanité.
Ça revient à aimez-vous les uns les autres, non?
Ouais. Le Christ? Ah ben oui, tous les prophètes d'ailleurs, qui parlent d'amour, tous ceux qui ont parlé d'amour et qui ont prôné dans leur corps, dans leur posture, dans leur être, une vraie posture d'amour et donc de dépassement du matérialisme et de la violence de la société, en fait, ont été abattus. Enfin, Martin Luther King, Gandhi, le Christ, ils sont trop dangereux. Le vrai danger, c'est de vivre en cohérence, c'est d'avoir une figure tutélaire qui est capable d'emporter sur ce programme-là de paix, de prise en considération de l'autre. Toute la domination du monde, elle repose sur l'exploitation de l'autre. Et là, d'un coup, on arrive et on dit, en fait, on va considérer tous les humains et les non-humains. Mais non, c'est pas possible. Et les capitalistes peuvent pas laisser faire ça.
Est-ce qu'il y a des personnes que vous estimez, pour lesquelles vous avez de l'admiration vivante, aujourd'hui?
Ouais, plein. Plein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les ONG, j'avoue. Alors, pas toutes, hein. Il y a des grandes ONG bourgeoises hyper... financées financées par des ultra-capitalistes qui sont là et qui prennent des chèques des industries. Donc ça, pour moi, c'est un non-sujet. Mais par contre, les vraies ONG, toutes les vraies ONG, Foodwatch, L214, je ne peux pas les citer, il y en a trop, je les adore. Enfin, je les trouve stratégiques, puissantes. Et merci, quoi. Merci aux ONG d'être là. Merci aux intellectuels. Ouais, moi, j'ai vraiment besoin de leurs travaux, de leur mise en narration, de leur compréhension du monde et de leur approfondissement de ce qui est en train de se passer. Et donc, sur l'ensemble de leur production intellectuelle, ça forge tellement... ce qu'on est, ça me permet de faire des petits virages, à gauche souvent, des tout petits virages qui vont affiner ma façon de comprendre le monde. Je me dis, mais merci, mais quel cadeau la recherche, quel cadeau les intellectuels, les vrais journalistes. Merci aux vrais journalistes, il n'y en a plus beaucoup. C'est un espace qui se réduit avec la mainmise des ultra milliardaires sur les médias. Et après, j'ai beaucoup d'admiration et de gratitude pour les artistes qui me permettent de créer un espace de réconciliation avec l'humanité. Je suis folle dingue de Vladislav Galar, dont le talent m'éblouit au théâtre. Folle dingue des danseurs, ces troupes de danse contemporaine qui m'émeuvent au-delà de tout ce qu'on peut. Tous les artistes que je vois au Festival d'Avignon, parce que je ne rate pas les festivals d'Avignon. Voilà. Et puis, je sais pas, de la reconnaissance pour le monde entier. Je sais pas, j'aimerais prendre les infirmières dans mes bras, en fait. tout autant qu'elles sont, tous autant qu'ils sont.
Merci Claire Nouvian.
Merci à vous.
Reporter est un média indépendant, en accès libre, sans publicité et financé par les dons de ses lecteurs. Pour nous soutenir, rendez-vous sur reporter.net/don. Reporter.
Le quotidien d'écologie.